Uno, dos, one, two, tres, cuatro.
Voici le quatrième épisode de ma série de podcasts consacrée à l'année 1966, avec les résultats catastrophiques du bac 66, la mode des cheveux longs, une grève générale au mois de mai, le commissaire Maigret qui débarque à la télé, et les Rolling Stones à Marseille.
Europe 1, on de la traconte, l'année 1966.
En juin 1966, la France est suspendue à une interrogation. Que vont donner les résultats du bac, du bachot, comme on dit à l'époque? Et pourquoi donc s'inquiète-t-on? Eh bien parce que l'an dernier, en 65, on a supprimé l'examen probatoire qui permettait de passer de première en terminale. Bref, on a enlevé un filtre qui, logiquement, devrait donc se répercuter sur les résultats du bac de cette année. Le ministre de l'Éducation, Christian Fouché, lui-même est inquiet.
Le probatoire supprimé, il est certain que l'année dernière, c'est certain, c'est également une chaussure. Il est certain que l'an dernier, les chefs d'établissement, dans le public comme dans le privé, ont eu tendance à laisser passer dans la classe terminale un peu plus, 10% à 12% de plus, suivant les cas, de candidats aux classes terminales que n'en laissait passer le probatoire. Bon, alors ceci fait à peu près 10% ou 12% de plus. Mais il y a eu un autre phénomène. C'est qu'il y a quantité d'établissements qui n'ont aucune espèce de contrat d'association avec l'État, et ce qu'on appelait de mon temps, je ne sais pas comment on les appelle maintenant, mais je ne veux pas ensuite être poursuivi pour diffamation.
On les appelle des boîtes à bachots,
qui, elles, ont accueilli tous les collégiens, tous les lycéens. Et alors là, la proportion est beaucoup plus grande, puisqu'elle est de l'ordre de 144% en plus pour Paris que l'année dernière. Réfléchissez un petit peu sur ce chiffre.
Donc,
alors ceux-là, a priori, ne sont peut-être pas du niveau suffisant pour le baccalauréat. Ceci dit, je leur souhaite bonne chance.
Au cours d'une émission d'Europe Midi, Jacques Paoli ose poser une question qui ne plaît pas forcément aux lycéens de 66.
Est-il exact que par rapport à leurs aînés, les jeunes écoliers français d'aujourd'hui sont en retard?
C'est vrai. À quoi est-ce que c'est dû? C'est dû très certainement à la fin, et je m'en suis entretenu avec les instituteurs, avec le SNI, le Syndicat National des Instituteurs, mais qui s'est penché là-dessus sur un plan pédagogique et pas du tout sur un plan syndical, puisqu'il est passionné par ce problème, comme moi. Bon, comment se fait-il que tant d'enfants rentrent en sixième avec un an ou parfois deux ans de retard par rapport à ce qui existait autrefois, ce qui existait de notre temps? Et ensuite, ne rattrape pas ça pendant tout le second cycle. Alors, à quoi est-ce que c'est dû? Ce n'est certainement pas dû à la baisse de niveau des instituteurs, qui continuent à être des hommes extrêmement dévoués et s'intéressant beaucoup à leur métier. Et certaines expériences pédagogiques avaient été faites autrefois et ont été, à mon avis, désastreuses. Vous avez entendu parler de la méthode globale, par exemple, qui a donné le très mauvais résultat. On a des gosses qui sont en seconde et en première et qui ne sont pas fichus de lire. N'est-ce pas, qui ne sont pas fichus de lire.
Et qui ont un sens très relatif de l'orthographe
à cause de cette méthode.
La veille du coup d'envoi du bac 66, Europe numéro 1 rencontre des lycéens parisiens.
Et vous êtes confiant?
Ah, moi très confiant, je suis sûr de ne pas l'avoir.
Pourquoi?
Hein? Non, parce que j'ai rien foutu pendant l'année.
Alors qu'est-ce que vous allez faire de votre journée aujourd'hui? Vous révisez encore ou vous allez vous reposer?
Midi, oui.
Vous êtes couché tôt ces derniers temps?
Une heure tous les soirs.
Et ce soir?
Ce soir, une heure aussi.
Ah, on ne touche pas au cahier, non? Je joue au tennis, piscine,
Vous allez vous coucher tôt?
Sans doute, 9h.
Est-ce que vous croyez qu'il y a, comme les années précédentes, pas mal de bons tuyaux qui circulent sur les sujets?
Beaucoup de tuyaux, mais tous faux.
Pourquoi vous avez les bons?
Ah non, j'ai pas les bons, non, mais je sais qu'ils sont tous faux. Comme sur aucun les mêmes, forcément faux.
Le lendemain, comme c'est l'usage, les lycéens débutent par l'épreuve de philosophie. Trois sujets au choix. Premier sujet. Pouvez-vous définir en les distinguant les deux expressions « être intelligent » et « être raisonnable » ? Sujet numéro 2. S'instruit-on dans les livres comme on s'instruit par l'expérience ? Et sujet numéro 3. Un commentaire d'un texte de Descartes. Vous avez 4 heures. Et à l'issue de ces 4 heures, Europe numéro 1. Et là.
Vous venez chercher vos enfants?
Ma fille qui passe le bac.
Qu'est-ce qui avait le plus le trac ce matin? C'était elle ou c'était vous?
Oh, certainement moi.
Vous distribuez des feuilles pour des cours de rattrapage?
Il est soit cours de rattrapage, soit préparation à l'oral de septembre, soit préparation Sciences Po, Institut Langue Orientale, etc.
Ça a marché, mademoiselle?
Pas mal.
Qu'est-ce que vous avez pris?
Le deuxième.
Ça a marché, monsieur?
Oh, pas tellement bien, non. Enfin, j'ai pris le sujet sur Descartes, sur le langage.
Je suis pas tellement content.
Vous pensez passer l'oral alors?
Non, je ne pense pas, non. Je pense à septembre maintenant.
Ça a marché, mademoiselle, ce matin?
Ouf, pas, ni trop bien, ni trop mal. Enfin, en philo, c'est difficile de se rendre compte. Hein.
Qu'est-ce que vous avez pris comme sujet?
Le deuxième, c'est-à-dire s'instruire par les livres ou par l'expérience.
Vous êtes très nombreux à avoir pris le deuxième jusqu'à présent.
Oui, je crois que c'est celui qui a eu le plus de suffrages, enfin.
Moi, j'ai pris le second parce que j'ai le premier avec l'intelligence.
Le premier, toi aussi.
Ça a bien marché dans le fait que j'ai fait une dissertation qui ressemblait à celle-ci.
Ça a marché, mademoiselle?
Pas mal.
Comment avez-vous traité le sujet?
Là, je veux rien dire, je ne veux rien savoir, moi. Je ne veux plus y penser, je verrai ça mercredi.
Personnellement, c'est la deuxième fois que je passe le bac, alors je suis moins intimidé. Mais pour le type qui arrive pour la première fois, peut-être il sera intimidé à l'oral.
On vous en donne des prospectus, hein? On a vraiment peur que vous n'ayez pas le bac, j'ai l'impression.
Oui, mais j'ai l'impression, surtout quand on nous demande de préparer l'oral, c'est pas très drôle.
Ça vous encourage pas tellement?
Ça vous décourage.
À la fin des épreuves du bac, se déroule ce qu'on appelle un monôme. Un défouloir festif durant lequel les jeunes investissent les rues de leur ville en coupant notamment la circulation automobile. Ça se passe à Marseille, ça se passe à Rennes, ça se passe à Bordeaux et ça se passe bien. Mais à Paris, quartier Saint-Michel, ça chauffe plus qu'à l'accoutumée.
Contre-attaque des autopompes.
C'est la cavalcade générale. On envoie de l'eau partout. Les étudiants crient car les policiers n'ont plus d'eau. Alors évidemment, qui va être le plus fort cette fois-ci?
Du whisky.
Non, je ne crois pas que ce soit du whisky qu'on nous envoie en ce moment, mais de l'eau. Car c'était une feinte. Ils ont fait semblant de ne plus avoir d'eau et ils en lancent là en ce moment dans la rue.
La plupart des jeunes sont assis maintenant sur les voitures. Plus aucune voiture ne peut avancer. Une dame sort de sa voiture, elle n'est pas contente car elle vient de recevoir un œuf. Alors un agent s'approche d'elle et lui montre que lui aussi en a reçu sur son képi. Mon Dieu, qu'il faut prendre ça à la rigolade. En ce moment, les policiers commencent à se battre avec les jeunes étudiants.
Le monôme parisien se termine tristement avec des vitrines cassées et des kiosques à journaux vandalisés. Une semaine plus tard, tombent les résultats du bac et l'hécatombe attendue se produit. Le bac 1966 atteint un taux d'échec jamais vu en France. Deux candidats sur trois sont recalés. Et pour certains, c'est la faute des correcteurs, bien trop sévères.
J'ai eu deux. Enfin, mais j'étais très bonne en philo. Enfin, même, je suis dans une école religieuse. J'étais au concours général des écoles libres en philo. Alors, je m'attendais à avoir une meilleure note que ça en...
Vous avez combien en composition d'habitude l'année?
Oh, mais j'ai eu 12, 13, 15. Enfin, des très bonnes notes. Et alors, mes parents ont été voir le professeur au mois de juin, et alors il y avait marqué « Vous parlez, vous faites de la logomachie ».
Vous avez écrit combien de pages?
13 pages. Enfin, j'en ai écrit trop, ça je reconnais. Et j'écris comme un cochon en plus.
Ça peut-être énervé le professeur.
Oui, mais ça, je suis d'accord. Mais là, cette fois-ci, j'ai fait attention.
Mais pas de panique. Cet élève, comme 150 000 autres, a l'occasion de se rattraper à l'époque en septembre. Comme pour s'excuser d'avoir été si sévère, le ministre de l'Éducation nationale met en place des émissions de radio et de télévision destinées à faciliter la préparation des candidats à la deuxième session. L'opération s'appelle Radio-Télé-Bac.
Candidats à la seconde session du baccalauréat, taillez vos crayons, remplissez vos stylos. Assurez-vous que vous avez assez de papier, car c'est demain 4 août que les émissions de radio et de télévision destiné à faciliter la préparation de cet examen commence. Tous les jours, du lundi au vendredi inclus, vous pourrez suivre ces émissions à la radio de 9h15 à 11h15 et à la télévision de 14h à 15h. Demain, n'oubliez pas, tous devant vos postes.
Est-ce que c'est grâce à Radio Télébac? En tout cas, la session de rattrapage sauf les meubles. Le taux de réussite au bac 1966 passe de 30% à 49,8%.
What a day for a daydream. What a day for a daydreaming boy. And I'm lost in a daydream. Dreaming about my bundle of joy. And even if time ain't really on my side, it's one of those days for taking a walk outside.
I'm blowing the day to take a walk in the sun and follow my face on somebody's new mowed lawn. I've been having a sweet dream. I've been dreaming since I woke up today. It's starring me in my sweet dream, 'cause she's the one makes me feel this way. And even if time is passing me by a lot, I couldn't care less about the dues you say I got. Tomorrow I'll pay the dues for dropping my load, a pie in the face for being a sleepy bulldog. And you can be sure that if you're feeling right, a daydream will last long into the night. Tomorrow at breakfast you may pick up your ears, or you may be daydreaming for a thousand years. What a day for a daydream, custom made for a daydreaming boy. I'm lost in a daydream, dreaming about my bundle of joy.
C'était le groupe de rock américain The Lovin' Spoonful avec leur carton de 66, Daydream.
Europe 1, on de la traconte, l'année 1966.
En 1966, en France, il y a une mode masculine qui ne passe pas forcément. Les cheveux longs. Puisqu'on parlait du bac tout à l'heure, aller au repêchage de septembre avec les cheveux longs serait une folie.
Si vous passez l'oral, vous garderez vos cheveux longs? Vous avez des cheveux un peu comme Antoine.
Non, je ne peux pas les garder pour l'oral, non, je ne ferai pas ça. C'est trop risqué vraiment de tomber sur une vieille fille ou quelque chose comme ça.
Si vous passez l'oral, vous garderez vos cheveux longs?
Oui.
Oui, oui. Vous prenez de gros risques là, vous savez.
Oui, non, mais Non, je trouve que ce serait ridicule de noter quelqu'un sur ses cheveux longs.
Ce serait ridicule, et pourtant ça se fait. En mai 1966, un lycéen de Melun est exclu de son établissement pour une histoire de tif trop long.
Monsieur le proviseur ne m'accepte plus dans son établissement avec ma coupe de cheveux actuelle.
Sur cette position, que vous a déclaré le proviseur?
Il m'a déclaré qu'il était contre les cheveux longs, de même qu'il était contre les jupes courtes, et qu'il ne m'acceptait pas dans son lycée dans cette tenue.
Est-ce la première fois qu'une réflexion vous est faite sur vos cheveux?
Non, on m'a obligé plusieurs fois en cours d'année à me couper les cheveux.
Mais aussitôt cette sanction appliquée, quel a été votre comportement?
Mais j'en ai parlé à mes parents, et avec leur accord et le soutien de nombreux camarades qui voudraient bien faire comme moi, j'ai décidé de ne plus aller au lycée et de ne pas céder.
Et que pensez-vous des jeunes qui ont parfois tendance à se laisser pousser les cheveux d'une façon abusive?
Mais je pense que si on laissait beaucoup plus de liberté aux jeunes, ils n'agiraient pas ainsi. Évidemment, Antoine, les beatniks ont les cheveux très très longs, ils ont des tenues vestimentaires qui choquent les gens. Et s'ils agissent ainsi, c'est justement pour protester contre les habitudes qu'ont prises les parents qui veulent imposer aux jeunes comme des règles, comme des lois.
De son côté, le directeur de l'établissement s'estime dans son bon droit. Mieux, il protège la société tout entière.
En tant que directeur d'un établissement d'enseignement, pourquoi interdisez-vous à vos élèves de porter les cheveux longs quand ils viennent à l'école?
Oui, nous avons beaucoup réfléchi là-dessus. Je crois que d'abord, il faut reconnaître que mon attitude était surtout sentimentale.
Qu'appelez-vous une attitude sentimentale? Ça vous déplaisait?
Ça me déplaisait, oui. Ça me déplaisait parce que j'avais l'impression que, laissant pousser leurs cheveux, ils avaient un air de saleté, même s'ils étaient propres. Cette façon de se vêtir, cette façon de se coiffer, leur donnait un air de volerie qui ne me plaisait pas.
Ça, c'est une raison subjective.
C'est pas sérieux, oui. Je dois le reconnaître, ça ne tient pas debout. Alors j'ai réfléchi.
Et vous l'interdisez toujours, les cheveux longs?
Je l'interdis toujours parce que
pour d'autres raisons maintenant.
Ce sont des raisons logiques, tout au moins je l'espère. Et les voici. Une école doit enseigner à vivre dans une société, à respecter cette société et à respecter ses conventions. Elle doit donc s'insurger contre tout ce qui tend à détruire ses conventions, sauf si, cela peut se faire. Certaines d'entre elles ne sont pas respectables.
Oh, vous croyez qu'on fait sauter une société en se laissant pousser les cheveux?
On commence par voler un œuf et puis on tue sa mère, évidemment.
Imaginez qu'en 1966, cette mode des cheveux longs pour les garçons ne fait pas bondir que les chefs d'établissement. Ça choque beaucoup de monde. Comme en décembre 1966, quand deux jeunes chevelus déambulent dans les rues de Limoges.
Ondulés, frisés, voire même décolorés, ses disciples limousins d'Antoine portent la tête bien haut et les cheveux bien bas avec une aimable désinvolture et une indifférence qu'ils semblent d'ailleurs être les seuls à partager.
Mais bien sûr, leurs cheveux n'étaient pas assez longs. Écrire sur son plus
complètement. C'est affreux.
Moi, je trouve que c'est sale, tout simplement. Je l'aime pas.
Je suis contre les cheveux longs. Je pense que les hommes ne devraient pas avoir les cheveux longs, parce que c'est réservé aux femmes, et puis de toutes les façons, ça dénature un jeune homme.
Il faut dire que jusque-là, la coiffure masculine était dictée par le passage obligatoire au service militaire. Oreilles et cou bien dégagés. Elvis a ensuite popularisé la banane, et donc dans les années 60, sont arrivés les cheveux longs. Et en France, c'est le chanteur Antoine qui a lancé la mode.
Ma mère m'a dit, Antoine, fais-toi couper les cheveux. Je lui ai dit, ma mère, dans 20 ans si tu veux. Je ne les garde pas pour me faire remarquer, ni parce que je trouve ça beau, mais parce que ça me plaît.
Pourquoi les cheveux longs? D'abord, pour adopter d'abord l'attitude négative, ce n'est pas pour des questions de révolte. Ce n'est pas non plus pour des questions de copie. Ce n'est ni une copie des Beatles, ni de Beethoven, ni de Chopin, ni de Bonaparte. Ou en tout cas, même dans les cas où c'est une copie, ça ne peut être une copie ni plus vile, ni plus inviable que les gens qui se font bronzer pour copier tel acteur, ou bien qui se font les filles qui se font teindre en blonde pour imiter Mademoiselle Bardot. Alors pourquoi? Ben, je pense que c'est une question de goût. Enfin, je ne peux juger que pour moi, c'est une question de goût, au point de vue sensible. J'aime avoir les cheveux longs, étant donné que il y a à peu près un an et demi, je suis passé dans une glace et que mes cheveux commençaient à s'allonger, je me suis dit, tiens, j'aime bien avoir les cheveux longs.
Europe 1, on de la traconte, l'année 1966.
Début mai 1966, les syndicats ont des revendications de salaire, essentiellement. Alors le 17 mai, ils lancent une grève générale. Personne ne doit travailler ce jour-là. 30 ans qu'on n'a pas vu ça. Et les organisateurs appellent à la manifestation la plus importante depuis l'avènement de la Ve République. À la veille du défilé, Georges Segui, le leader de la CGT, résume les revendications sur Europe numéro 1.
Avec à la base les revendications d'augmentation de salaire, de réduction de la durée hebdomadaire du travail, de liberté syndicale, de garantie de l'emploi contre le chômage, etc. Alors, je ne vois pas dans quel sens on pourrait dire de cette manifestation qu'elle va dans la voie restrictive d'une politisation au sens étroit du terme.
Ça n'est pas politique, assure Georges Segui de la CGT. André Janson, son homologue de la CFDT, est du même avis. Et d'ailleurs, les partis politiques qui tentent de se raccrocher à cette mobilisation sont gentiment éconduits.
Nous avons dit et répété que la manifestation est une manifestation essentiellement et uniquement syndicale et qu'elle doit rester syndicale. Nous nous réjouissons de ce que certains nombres de formations ou d'hommes politiques aient déclaré leur accord avec nos revendications. Nous avons remercié ces formations politiques, ces hommes politiques, de leur appui, mais en leur rappelant que la manifestation de demain est une manifestation syndicale et toutes les dispositions sont prises pour qu'elle le reste.
Le mardi 17 mai 1966, c'est Gilles Schneider qui se frotte à cette grève générale pour Europe numéro 1.
Il fait déjà chaud dans les rues de Paris et j'ai vu ce matin des voitures sur le toit desquelles il y avait des cannes à pêche et sur la dunette arrière des maillots de bain. Je ne dirais pas que pour les Parisiens le 17 mai c'est dimanche, mais bon nombre d'entre eux n'ont pas encore ouvert leurs volets. Sur les trottoirs, peu de marcheurs, mais des poubelles, des papiers gras qui traînent par-ci par-là. Les ménagères, elles, ne trouveront pas de pain. Beaucoup de boulangeries sont fermées et dans les cafés-tabacs, il n'y a pas affluence. Et sur les grandes artères, les agents ont remplacé les feux et ça circule relativement bien.
Et le résultat dépasse toutes les espérances des organisateurs. On se croirait un dimanche, tout est fermé. À la SNCF et à la RATP, on compte moins d'un train sur deux en circulation. À Air France, la plupart des vols sont annulés. Les journaux ne paraissent pas. Et entre 7h et 18h, la distribution du gaz et de l'électricité est carrément coupée dans certains quartiers de Paris.
Vous êtes à la dernière station-service avant l'autoroute. Vous avez beaucoup de travail ce matin, monsieur ?
Jusqu'à présent, on a travaillé sans arrêt.
Et ça doit pas être facile parce que l'électricité ne marche pas.
Ah ben non, il faut toujours pomper à la main, alors c'est pas bien rigolo pour nous ça.
Vous avez commencé à être fatigué.
Ah ben ce soir, on aura les bras plutôt en compote.
En début d'après-midi, à Paris, a lieu une grande manifestation qui rassemble tous les mécontents de la politique du gouvernement Pompidou.
Qui n'avait jamais travaillé. Ohé, 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 Pompidou. Pompidou navigue sur nos sous. Ohé, ohé, Pompidou. Pompidou navigue sur nos sous.
Et au moment du comptage, vous connaissez la rengaine, 200 000 manifestants selon les organisateurs, 35 000 selon la police. Difficile de se faire une idée soi-même, les images du cortège parisien n'ont jamais été diffusées à la télévision. Censurées. Le lendemain, sur Europe numéro 1, le journaliste économique Philippe Bauchard assure qu'avec cette mobilisation exceptionnelle, le syndicalisme a pris du poil de la bête.
Ces manifestations ont montré que les syndicalistes étaient maintenant capables de manifester leur inquiétude dans la rue. Ce sont maintenant des éléments dont doivent tenir compte le gouvernement et les états-majors syndicaux. Première constatation, il est plus payant d'organiser la grève générale que de multiplier les actions de harcèlement. L'opinion, en tout cas, y est plus sensible. Mais en sens contraire, il est sans doute difficile de répéter de nouvelles grèves générales avant les départs en vacances, c'est-à-dire avant le 15 juin. Deuxième fait. Hier, les syndicats ont évité que les mouvements soient politisés. Bien au contraire, ils ont mis l'accent sur leur souci de dialogue, de discussion avec le gouvernement et surtout avec les patrons. Si le gouvernement tient compte de ce souhait, s'il donne un peu de mou et de souplesse aux chefs d'entreprise en les laissant discuter avec leurs salariés, il évitera peut-être de nouvelles grandes grèves à l'automne, à la veille des élections législatives.
Il n'y aura pas d'autres journées de grève générale en 1966. Non pas parce que le gouvernement a augmenté tous les salaires, mais parce que l'unité affichée au mois de mai ne s'est jamais plus produite.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine. C'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu la bohème. La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie. La bohème, la Souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie, la bohème, la bohème. Ça voulait dire on a 20 ans, la bohème, la bohème. Et nous vivions.
C'était bien sûr Charles Aznavour et son tube La Bohème en 1966.
Europe 1, on de la traconte. L'année 1966.
En 1966, l'ORTF décide d'adapter le personnage des romans de Simenon, le commissaire Maigret, à la télévision. Après tout le monde. La BBC britannique l'a déjà fait, et la télévision italienne aussi, il y a 2 ans. Et là-bas, c'est un vrai phénomène.
Les Italiens sont précipités sur toutes les pipes, dans tous les magasins de pipes. Maintenant, il est difficile d'avoir des pipes en Italie. L'Italien, généralement, fume la cigarette. Et à cause de Gino Cervi, maintenant, l'Italien fume la pipe. C'est très drôle. En Italie, Gino Cervi, maintenant, tout le monde l'appelle commissaire. Et quand il est passé la frontière, il n'a eu à montrer ni passeport, ni ouvrir rien. On a dit, mais passez, monsieur le commissaire.
Bref, la télé française est à la bourre. Alors que le commissaire Maigret est censé être français, policier au 36 quai des Orfèvres, et que Simenon est certes belge, mais francophone. Bref, la France rattrape son retard, et c'est l'occasion de rappeler où, dans la tête de Simenon, est né le personnage de Maigret. Ça n'est pas en France, ni en Belgique, et encore moins en Italie ou en Angleterre. C'est en Hollande que Simenon a eu l'idée de son personnage.
Mon bateau était là en face, de l'autre côté du canal. Je m'étais arrêté ici pour 3 jours. J'y suis resté plus de 6 mois.
Le bateau s'appelait l'Ostrogo. Simenon avait 25 ans. Et voilà comment est né à Delfzijl, un petit port de Hollande, le commissaire le plus célèbre de la police judiciaire française. Le bourgmestre de la ville l'a annoncé hier. Un retard a été comblé, une nouvelle page a été ajoutée à l'état civil. Maigret a été déclaré hier né officiellement le 20 février 1928 à l'âge de 44 ans de Georges Simenon, son père, et de mère inconnue. Sa naissance et, pourrait-on dire, sa béatification ont été célébrées au même moment, puisque le commissaire a été statufié à l'endroit précis où Georges Simenon l'avait créé. Une statue d'ailleurs qui ressemble beaucoup plus à un poilu de la guerre de 14 avec un mini brasero à la main qu'à un commissaire divisionnaire du quai des Orfèvres en train de bourrer sa pipe.
Il ressemble un petit peu au général de Gaulle, je trouve. Parce que de profil en face comme ça, je pense qu'il ressemble un petit peu à notre général.
Seulement, il y a tout de même un défaut. Dans l'œuvre du sculpteur Pieter Dont, Maigret a sur la tête un chapeau melon, ce qui n'est pas du tout le genre du général. Maigret en statue, et après tout, pourquoi pas Simenon ?
Ah non, j'aimerais pas du tout avoir ma statue, pas du tout. En tout cas, de mon vivant, et après, ça m'est égal, puisque je ne serai pas là pour l'avoir, ni pour en sentir le ridicule. Mais en Maigret, ça m'amuse assez fort, parce que je crois que c'est la première fois qu'un personnage fictif soit statufié du vivant de son auteur.
En 24 ans, Jean Richard interprétera 88 fois le rôle du commissaire Maigret.
Europe 1, on de la traconte. L'année 1966.
En mars 1966, les Rolling Stones sont à Marseille pour la première fois. Un des organisateurs de ce double concert est un tout jeune Marseillais de 18 ans qui s'appelle Jean-Pierre Foucault. Salle Vallier, les Stones sont censés enchaîner 2 concerts d'affilée. Sauf que, après le premier spectacle, les gens ne sortent pas. Résultat, pour le deuxième concert, ils ne sont pas 1500, mais 3000 personnes dans la salle. C'est un concert complètement fou, qui se termine par un incident. Lors de la dernière chanson, Satisfaction, quelqu'un dans le public lance un barotchet sur Mick Jagger. Arcade sourcilière ouverte. Et Jagger, qu'est-ce qu'il en dit après le concert? Le voici au micro d'Eugène Saccomano.
Comment s'est passée cette blessure hier soir? Le coup?
Oh, je ne sais pas. Pièce de chaise.
Oui.
Oui.
Du
bois.
Oui.
Oui.
Vous étiez en train de chanter?
Oui.
Vous avez reçu violemment?
Oui, oui. Violemment, oui. Et
c'est grave? Est-ce que c'est grave?
Non. Un peu mal de tête ce matin.
Oui. Et vous avez été hospitalisé?
Oui, quelques points.
Ça chauffait beaucoup alors hier soir?
Oui.
Hein?
Oui.
Et maintenant ça va mieux?
Oui, oui.
Où chantez-vous ce soir?
Lyon.
Lyon? Oui. Ça ira très bien, vous pourrez chanter?
Oui, oui, je chante. Je chante ce soir, oui.
Dites-moi, est-ce que vous avez porté plainte?
Oui, oui, oui.
Est-ce que vous estimez que c'était des fans qui n'étaient pas contents?
Ou non, bien alors, non.
Non, c'était c'est, dans un mouvement d'enthousiasme.
Oui, fou.
C'est arrivé déjà?
Oui, quelques fois.
Combien de
fois? Keith et Charlie.
Oui.
Et Bill, oui.
Combien de fois avez-vous reçu comme ça?
Cinq fois.
Et le public marseillais? Qu'est-ce qu'il en pense de ce barreau de chaise qui a blessé la star? Eugène Saccomano poursuit son enquête.
Il y a autour de moi quelques jeunes gens au Garden Club qui ont assisté hier soir au gala des Rolling Stones. Tu y étais, toi? Qu'en penses-tu?
Moi, je pense que c'est ridicule parce que manifester son enthousiasme de cette façon...
Et toi?
Oh, je pense que c'est stupide. On pourrait manifester son enthousiasme d'une autre manière.
Oui.
Alors, est-ce que tu penses que lancer comme ça un barreau de chaise au visage d'un chanteur, c'est manifester son enthousiasme?
Oui, je crois. Si on est excité, ça arrive.
Est-ce que tu l'aurais fait, toi?
Oui, mais je t'offends.
Côté musique française, en 1966, on fête les 4 ans du magazine Salut les copains. Et pour l'occasion, son fondateur, Daniel Filipacchi, convoque le photographe des stars, Jean-Marie Perrier. Jean-Marie, je veux une photo qui sera un poster pour l'anniversaire du magazine. Et dessus, je veux tous les yéyés. Hein, une photo de classe de vedette. Le truc que t'as vu nulle part. Mais tu n'y penses pas, enfin. Comment on va pouvoir trouver un moment où ils seront tous libres, en fait? C'est impossible. Tu te débrouilles, Coco. Je te paye pour ça. Jean-Marie Perrier passe 3 mois à convaincre 46 artistes. Et le 12 avril 1966, au studio MacMahon, près des Champs-Élysées, toutes les vedettes yéyées de 66 sont là. Sylvie Vartan, Françoise Hardy, Serge Gainsbourg, Dick Rivers, Chantal Goya, Eddie Mitchell, Salvatore Adamo, Christophe, Jacques Dutronc, Michel Berger et bien sûr Johnny. Rares absents, Franck Adamo qui est au service militaire et Nino Ferrer qui ne veut pas être assimilé au mouvement yéyé. Attention, on ne bouge plus. Hop, c'est dans la boîte. Merci messieurs dames. Cette photo est surnommée la photo du siècle. Et un artiste en perfecto blanc domine tous les autres. C'est Johnny Hallyday. Et 50 ans plus tard sur Europe 1, Jean-Marie Perrier a expliqué comment il est parvenu à le mettre en avant sans offusquer les autres vedettes. Le filou.
Ce que je voulais, moi, c'était mettre Johnny Hallyday au-dessus parce que je trouvais que c'était normal, parce que déjà, à l'époque, c'était déjà lui le patron. Mais surtout, je voulais pas vexer tous les autres parce qu'il y avait quand même Richard Anthony, Claude François, des gens qui vendaient énormément de disques. Donc, j'ai trouvé le stratagème de laisser l'échelle contre le mur. Et puis, j'ai dit à Johnny, au dernier moment, une fois que tout le monde a été installé, je lui ai dit, tiens, attends, je te vois pas bien, alors qu'il dépassait tout le monde d'un mètre. Bon, je lui ai dit, monte d'un cran parce que je te vois pas bien. Et clic, clac, et voilà, comme ça. J'ai pu faire la photo sans vexer personne. Ça a été franchement facile à faire. Il n'y en a aucun qui m'a dit non. Il n'y en a aucun qui m'a dit « je veux voir la photo avant qu'elle paraisse ». Vous imaginez aujourd'hui?
France Gall figure sur cette photo. Et en 1966, elle cartonne avec une chanson, « Les sucettes ». Chanson écrite et composée par Serge Gainsbourg.
Sucettes à l'année, elles ont la couleur.
jours heureux.
C'était donc France Gall avec son titre Les Sucettes, paroles de Serge Gainsbourg très suggestives. Annie aime les sucettes à la Nie, les sucettes à l'anis d'Annie, donne à ses baisers un goût anisé. Lorsque le sucre d'orge parfumé à l'anis coule dans la gorge d'Annie, elle est au paradis. C'est un texte très coquin, limite porno. Mais figurez-vous qu'en 1966, France Gall, qui n'a que 19 ans, n'y voit que du feu. Elle ne voit pas l'allusion sexuelle, ce qui fait bien marrer Gainsbourg.
Expliquez-moi le texte des sucettes.
C'est une petite fille qui aime bien les sucettes, qu'elle achète au drugstore pour quelques pennies. Hein? Et c'est tout, non?
D'accord.
Hein?
C'est pas.
Ça n'est finalement que lors de sa tournée au Japon, quelques mois plus tard, que France Gall réalise la portée de ses paroles.
Mais j'avais honte, j'ai eu tellement honte. J'ai appris ce que ça voulait dire quand j'étais en Japon en tournée. Et avant, j'avais fait des émissions de télé, il y avait 500 personnes sur le plateau, je ne comprenais absolument pas pourquoi, d'un seul coup, il y avait 500 personnes sur le plateau. Et ensuite, quand je l'ai appris, ben, j'ai eu la honte absolue, je suis restée chez moi enfermée. Ça m'a vraiment rendu mal, j'étais très mal. J'étais trahie d'une certaine manière par les adultes autour de moi.
Et c'est sur ce moment de naïveté rafraîchissante que s'achève ce quatrième épisode consacré à l'année 1966. Guillaume Maury, Julien Pichenet et Boris Paczynski m'ont aidé à le préparer. La suite de notre exploration de l'année 66 dans le cinquième épisode dont De Lattre raconte une année.
Retrouvez On De Lattre raconte tous les jours sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.